Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Avant-guerre, le cinéma, tourner des films. Après-guerre, écrire sur le cinéma. Enseigner à l'IDEC. Une sœur parle de son frère. La sœur et le frère se sont illustrés tous deux dans l'univers du cinéma. Le frère avait rencontré Auguste Lumière, commencé des études de médecine, interrompues pour le cinéma, pour un cinéma d'avant-garde. Il fallait toujours une nouvelle avant-garde, une avant-garde remplaçant l'ancienne avant-garde. Alors, une avant-garde, oui, des recherches esthétiques peu appréciées par le public de l'époque. Un cinéaste qui avait voulu créer une philosophie du cinéma. Un film à citer, La chute de la maison Huchère, copie sauvée durant la guerre par Henri Langlois, film que les Allemands auraient aimé détruire. Marie Epstein raconte Jean Epstein, c'était dans les Nuits magnétiques, le 1er octobre 1986, sur France Culture.
Comment qui tournait le Tempesteur. Oui, comment qui tournait le Tempesteur. Ça, c'est la chute de la maison Huchère quand elle ressuscite du tombeau avec ses voiles et qu'elle. C'est la résurrection de Lady Huchère. C'est l'or des mers, la jeune femme pendant son enlisement, quand elle est enlisée. Ça, c'est un film que j'adore, un film magnifique. Alors ça, c'est pendant la scène de l'enlisement.
Marie Epstein raconte Jean Epstein, portrait à trois faces, par Jacques Kermabon et Michel Fleischmann. Vous avez aussi travaillé à la Cinémathèque française, ça compte aussi.
Ah oui, j'ai travaillé ici depuis la mort de mon frère. J'ai travaillé depuis 1953. J'ai travaillé à la Cinémathèque française.
Et qu'est-ce que vous aviez fait à la Cinémathèque
française ? Eh bien, pour commencer, j'avais un rôle très modeste. J'aidais Musidora à collectionner, à réparer tous les documents graphiques, les maquettes. Tout ça. Comme ça, j'ai connu Musidora, qui était à ce moment-là déjà une vieille dame charmante, qui a été une grande amie pour moi. Et puis, peu à peu, comme mon Dieu, j'avais quelques connaissances techniques, puisque j'ai travaillé avec Benoît Lévy pendant des années à la réalisation de films, Langlois m'a confié le soin de m'occuper du service technique des films, c'est-à-dire des tirages, des rapports avec les laboratoires et du montage.
C'est curieux, on voit que Henri Langlois s'est entouré de trois femmes, Marie Merson, Lotte Eisner et puis vous-même.
Je ne sais pas comment ça s'est fait.
C'est le hasard.
Ça, je ne sais pas. Je sais vraiment pas comment ça s'est fait.
Parce que vous avez vraiment travaillé ensemble.
Oui. Lotte Eisner, j'ai beaucoup travaillé avec Lotte Eisner, qui était une des celles qui a le plus aidé au Langlois dans son œuvre. Les trois quarts du musée ont été recueilli par Lotte Eisner.
Et un travail que vous avez fait récemment, c'est de restaurer le film d'Abel Gance, La Roue.
Oui, La Roue. Mais là, vous savez, il ne faut pas exagérer. On en a fait tout un plat. Aucun travail créateur là-dedans. Le tout, c'est qu'il manquait deux bobines dans La Roue. Et c'est Nelly Kaplan qui m'a dit, mais je me rappelle que Gance a envoyé son film à la Cinémathèque russe Sofkino, je crois, qui s'appelle, je ne sais pas, la Cinémathèque russe s'appelle Sofkino, je ne sais pas. Et à cette époque-là, dans les années 20, comme modèle de montage. Alors vous deviez écrire à Moscou pour savoir s'ils n'ont pas gardé cette... Et en effet, nous avons écrit à la Cinémathèque russe, et si, en leur expliquant notre cas, qu'il nous manquait deux bobines dans la roue, et s'ils avaient conservé le document, eh bien, ils nous ont envoyé deux bobines. Alors, on a pu compléter la roue.
Mais c'est le seul travail que vous avez fait, quand même pas. Il y avait d'autres... Vous avez fait un autre travail.
Oui, j'ai fait tout le travail normal de remontage. S'il y avait une séquence où il y avait des... qui paraissait pas très bien monté, ben j'essayais de me rappeler comment Gans l'avait monté, puis je la remontais comme Gans, vous j'aurais voulu qu'elle soit montée. C'est un travail d'obéissance, de fidélité. C'est pas un travail créateur.
Ce qu'il reste de Jean Epstein, ses films, ses livres, des photos, un peu de sa voix, quelques phrases dites en 1948 lors de la sortie des Feux de la mer, les souvenirs de sa sœur Marie, des projets, des mémoires inachevées.
Puis le gérant s'approchèrent des deux inconnus qui avaient déposé une lourde caisse noire sur la terrasse devant l'hôtel, et une discussion animée s'engagea entre les quatre hommes. Je ne comprenais pas leur italien, mais je voyais leurs gestes s'exaspérer dans l'effort d'expliquer et de saisir quelque chose qui, en tout cas, ne pouvait être qu'anormal. Non sans peine, Elvire me persuada d'aller à notre promenade habituelle en me promettant que les intrus avec leur inquiétant bagage seraient chassés pendant notre absence et que nous ne les reverrions jamais.
Et moi, nous sommes nés à Varsovie, de mère polonaise et de père français. Mon père nous avait déclaré à l'ambassade de France, donc nous sommes nés français à Varsovie. Et après la mort de mon père, ma mère a voulu se rapprocher de la France, puisque nous étions français, et elle a commencé par s'arrêter en Suisse française, où c'était en 1906-07. Où nous avons fait nos études dans les collèges français, parce qu'il y en avait beaucoup en Suisse depuis la sécularisation. Alors mon frère a fait ses études à la Villa Saint-Jean à Fribourg, en Suisse, et nous sommes restés en Suisse jusqu'en 14, jusqu'à la guerre de 14, où ma mère nous a emmenés habiter à Lyon, en France, où mon frère a commencé ses études d'abord d'ingénieur. Il voulait être ingénieur comme notre père et il a commencé à l'école centrale. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il a opté pour la médecine et il a étudié à la faculté de médecine. C'est là qu'il a connu Auguste Lumière, qui avait son laboratoire à Lyon. Et il a beaucoup travaillé avec Auguste Lumière à ses moments de liberté pour faire des traductions d'articles scientifiques, etc. Voilà comment nous sommes arrivés jusqu'en France.
Et il ne manifestait pas l'envie de travailler dans le cinéma à cette époque-là.
Alors, pendant qu'il était étudiant en médecine, je dois dire que nous passions toutes nos heures de liberté au cinéma. Nous en voyions quelquefois trois par jour. Les dimanches, on courait d'un cinéma à l'autre. J'étais passionnée par le cinéma, et moi aussi. Passionné par le cinéma et par la littérature moderne de cette époque. Cocteau, Sandrard, Marcel Proust. Et déjà, à tous ces moments, après chaque séance de cinéma, après chaque lecture, il prenait des notes. Ça a été l'origine de ses deux premiers livres, La littérature d'aujourd'hui, Un nouvel état d'intelligence, et Bonjour cinéma. Mais ce n'était que des manuscrits. Et il a eu l'idée d'écrire à Blaise Sandrard, qu'il ne connaissait absolument pas. Et Blaise Sandrard lui a répondu et lui a donné rendez-vous à Nice, lors d'un de ses passages à Nice. Et mon Dieu, nous nous sommes expédiés à Nice, c'était une grande expédition.
Tous les deux.
Ah, ben moi je suivais toujours derrière. a rencontré Sandrard et ça, il est allé seul chez Sandrard. Moi, je l'ai attendu. Il est allé chez Sandrard, il a passé une nuit à l'hôtel avec Sandrard, absolument ébloui par les magnifiques histoires que lui a raconté Sandrard sur ses voyages dans le monde entier, où il y avait peut-être certainement une part de féerie et de fantaisie, mais enfin, c'était éblouissant. Et mon Dieu, il en a profité pour lui demander ce que Sandrard pensait d'un mot qui commençait à être connu, photogénie. Et Sandrard lui a répondu, c'est un mot cucupraline rhododendron, mais c'est un grand mystère. Et mon frère était passionné par ce mystère. Et naturellement, il a laissé ses manuscrits, son manuscrit en tout cas, la littérature d'aujourd'hui, un nouvel état d'intelligence, en les mains de Sandrard, qu'il a transmis à Paul Lafitte, directeur des éditions de La Sirène, et c'est comme ça que le premier livre de mon frère a paru. Et Lafitte s'est intéressé beaucoup, et mon frère était toujours étudiant en médecine à Lyon, et il lui manquait, je crois, une ou peut-être 2 ans pour avoir son doctorat, mais à peine 2 ans. Et Lafitte a écrit « Votre place est à Paris, je vous prends comme secrétaire des éditions, mais venez à Paris. Il faut que vous soyez là pour le moment de l'édition de votre livre, etc. » Eh bien, vite, mon frère est parti.
Avec vous, là, cette fois-ci aussi
Moi, j'ai suivi une année après avec ma mère. Il nous a fait venir une année après avec ma mère. Mais lui est parti, il a abandonné ses études de médecine presque au seuil du doctorat.
Il a toujours gardé des relations avec Sandrard par la suite.
Attendez, ça je vais vous raconter. Et comme ça, il est venu à Paris. La publication de son livre a soulevé beaucoup d'intérêt dans tout le milieu intelligentsia de l'époque. Et Bonjour Cinéma a paru tout de suite après. Et La Lyrosophie, 3e livre publié par La Sirène, qui est un livre littéraire et philosophique en même temps.
Michel Marie.
Traditionnellement, on l'a rattaché au mouvement impressionniste. Enfin, c'est un terme qui appartient à la fois à Sadoul et puis à Henri Langlois, qui insistait surtout sur le fait que les images de films de l'époque étaient censées retranscrire les impressions psychologiques des personnages. Mais donc, ça avait très peu de rapport avec l'impressionnisme pictural. Mais c'était surtout un mot qui servait à opposer les films français à l'école allemande de l'époque, opposition impressionnisme-expressionnisme, bon, qui est un peu trop simple. Bon, en fait, Epstein a commencé très jeune à faire des films, dès 22-23 ans. Il est né en 1897. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il n'a pas une formation littéraire au départ, c'est un scientifique, il a fait des études de médecine, et c'est avec une rencontre avec Louis Deluc qu'il a fait un film documentaire sur Pasteur, hein, sur le savant Pasteur. Et puis très vite, il a été amené, grâce à Pathé, à faire 3 films de fiction, L'Auberge Rouge et puis Cœur Fidèle. Et c'est surtout Cœur Fidèle, en 1923, qui a beaucoup impressionné les critiques de l'époque. C'est l'un des tout premiers films qui utilise le montage court, parallèlement à Gans dans La Roue, mais encore plus systématiquement, qui utilise ce qu'on appelait à l'époque des cadrages penchés, c'est-à-dire des plans qui n'étaient pas pris à hauteur normale, mais il y avait surtout beaucoup de gros plans, d'angles de caméra tout à fait inusités. La fameuse séquence du manège était citée par tous les critiques comme quelque chose de tout à fait révolutionnaire.
Mais à notre retour, nous retrouvâmes la menace bien installée dans le hall et la sombre caisse et les étranges instruments qui en sortaient suscitaient tout un affairement. Le dîner s'en trouva gâché, d'autant plus que les adultes y parlèrent d'une surprise préparée un peu hardiment par la direction de l'hôtel, et la question fut aussi de savoir si les enfants pouvaient être sans dommage autorisés à assister à l'événement. Or, comme la compagnie sortait de table, l'obscurité se fut soudain traversée seulement par un faisceau grouillant d'ombre et de lumière qui jeta sur un mur des spectres tremblants. Ces fantômes, pas si effrayants somme toute, plutôt drôles même, sautaient au rythme d'un cliquetis rude et piquaient aux yeux, de sorte qu'on ne savait pas si les larmes venaient de cette brûlure ou du rire.
Alessandra a été au début de sa carrière. Il lui doit évidemment le premier pas qu'il a lancé. Et au début, il était très lié avec Sandra. Ils échangeaient une correspondance très suivie. Et mon frère était très reconnaissant à Sandra de la chance qu'il lui avait donnée. Mais il est advenu quelque chose. Sandra lui a proposé un contrat où il était, si vous voulez, secrétaire de Sandra, où il le suivait partout et il consacrait ses prochaines années à Sandra. Et mon frère a préféré son indépendance. Il n'a pas signé. Et Sandra, il y a eu une brouille à ce moment-là, un refroidissement, et ça a été la rupture de leur relation. Mais enfin, ça n'empêche pas, je crois que mon frère a gardé la plus grande admiration pour Sandra et beaucoup de reconnaissance. Mais enfin, Sandra lui en a toujours voulu. Voilà la vraie histoire des relations de mon frère avec Sandra.
Et à quel moment il a commencé à faire du cinéma et comment?
Ah, alors, il était donc secrétaire des éditions de La Sirène. Et là, il voyait évidemment beaucoup de monde des arts et des lettres de l'époque. Mais à La Sirène travaillait un homme encore tout jeune, Jean-Benoît Lévy. Jean-Benoît Lévy qui était le neveu d'Edmond Benoît Lévy, qui est un des, peut-être vous, si vous n'êtes pas très très cinéphile peut-être, mais enfin il était à l'origine des producteurs des tout premiers films spectaculaires, Edmond Benoît Lévy. Et c'était son neveu Jean-Benoît Lévy s'intéressait beaucoup au cinéma et surtout au cinéma culturel. Et mon Dieu, il a voulu faire un film sur Pasteur, sur la vie de Pasteur. C'était le centenaire de Pasteur. Et il a eu ce courage de confier la réalisation de ce film entièrement. Il l'a mis entre les mains de ce jeune homme qui n'avait encore rien fait et qui avait des idées très saugrenues. Qui voulait toujours faire quelque chose de nouveau. Ben, il lui a confié la mise en scène de ce film. Et ben, c'est comme ça que mon frère a réalisé Pasteur. Grâce au courage de Jean-Benoît Lévy qui lui a confié la réalisation de ce film. Et c'est son tout premier film. Il a donc fait Pasteur. Et mon Dieu, il faut croire que ça a été une réussite, puisque immédiatement après, Pathé lui a offert un contrat de 7 ans. Ce contrat de 7 ans, il a commencé par le réaliser et il a réalisé, mon Dieu, ses tout premiers films qui sont encore de très bons films dans les milieux cinémathèques, L'Auberge Rouge, qui est encore un très bon film, Cœur fidèle, La belle Nivernaise. Au bout de 3 films, ça s'est encore gâté parce qu'il voulait faire des choses à son idée, ça ne plaisait pas toujours au producteur. D'un autre côté, il y avait la société Albatros, Monsieur Kamenka, qui était très ouvert aux idées nouvelles et qui lui a proposé de travailler avec lui. Et mon frère a rompu son contrat avec Pathé et il a passé à Albatros. Maintenant, pendant qu'il travaillait à Pathé, Cœur fidèle a été évidemment un grand... Ça fait beaucoup de bruit. Ça a été la bataille de Cœur fidèle parce que c'était la première fois qu'on mettait un appareil sur un manège qui tournait. Alors, les spectateurs, il y en a qui étaient contents, il y en a qui respectaient. Enfin, c'était tout à fait épique. Et si vous voulez, le film a tenu 3 jours au programme de Marivaux sur les boulevards. Parce que le directeur de la salle, il ne voulait tout de même pas qu'on lui casse ses fauteuils. Mais enfin, c'était la renommée de mon frère a évidemment pris essor à ce moment-là.
Mais vous-même, pendant ce temps-là, vous commenciez à travailler
aussi? Eh bien,
moi,
je suivais toujours derrière. C'est-à-dire que je m'intéressais évidemment passionnément au cinéma. Mais mon frère avait, en allant chez Pathé, avait quitté Benoît Lévy, forcément. Et Benoît Lévy voulait continuer à faire des films. Et il a dit, mais j'ai personne pour m'assister. Et mon frère a dit, mais je vais vous laisser ma sœur. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma collaboration avec Jean-Benoît Lévy. Et j'ai fait de mon côté...
Des documentaires d'abord, et puis films, des films de fiction aussi.
Des documentaires,
aussi.
Non, Benoît Lévy, c'est tout seul, ces documentaires. J'aidais Benoît Lévy pour ses films de fiction. C'était des films culturels, mais de fiction, c'est-à-dire... âme d'enfant, peau de pêche, et puis après avec le sonore, la maternelle, la mort du cygne. Enfin, j'ai travaillé jusqu'à 40 avec Jean-Benoît Lévy.
La maternelle avec Madeleine Renaud.
Avec Madeleine Renaud, oui.
Et là, vous, qu'est-ce que vous faisiez sur ce film?
À peu près, je participais à tout, au découpage, à la mise en scène, au montage. J'étais assistante... Oui. Il y a une chose dans la maternelle, c'est que les enfants, on les a fait venir d'une vraie maternelle par camionnette, vous savez. Ils étaient 100 autour de nous, 200, je ne sais pas. On les fait venir toute la maternelle de Picpus, je ne sais plus de quelle rue. Ils arrivaient là, tels qu'ils étaient. Hein. Tels qu'ils étaient, il y avait même, mon Dieu, il y avait même... Il y avait même quelques poux, oui, oui. Bon, ils arrivaient tels qu'ils étaient, mais avec leur naturel. Et alors, c'est les adultes qui étaient intimidés devant eux, mais pas eux, mais pas du tout. Eux, vous comprenez, quand il y a un enfant devant un adulte, il est intimidé. Mais quand ils sont 100 devant 10 adultes, eh bien, c'est les 10 adultes qui font ce qu'ils peuvent. Alors, c'est là, je crois, le caractère de la maternelle. Mon Dieu, pour vous donner un détail réaliste, il y avait un décor de cabinet. Eh bien, mon Dieu, ben, ils ont joué, quoi. Ils ont joué pour de vrai. Ils étaient tout à fait à l'aise.
Alors, vous n'embrassez jamais les enfants?
Thank you.
Il est à Albatros et là, il réalise d'abord des films assez classiques. Mais enfin, Le Lion des Mongols avec Mosjoukine. On se demandait s'il allait s'entendre avec Mosjoukine parce que Mosjoukine faisait ses films lui-même et qu'il était un artiste très complet lui-même. Mais ils ont fait une espèce de pacte. Mosjoukine jouait et mon frère mettait en scène. Et ils se sont admirablement entendus pendant toute cette période de collaboration. Après Le Lion des Mongols, il a fait deux films d'après des scénarios de moi qui s'appelle L'affiche et le double amour. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que, je vais vous dire, mes scénarios convenaient pas à mon frère. Ils étaient trop... Je peux pas vous dire... C'était trop... Non, c'était pas le genre de mon frère. Il lui fallait des scénarios plus vigoureux, quoi, je le dis franchement. Et c'était pas de très bons films. Et après, il a fait Les Aventures de Robert Macaire, qui sont un film à épisodes, qui s'est un sujet très populaire, mais qui est encore maintenant plein de truculences, c'est très agréable à voir. Et puis après, mon Dieu, il a fait sa propre compagnie. C'était les films Jean Epstein, où il a fait ses deux films majeurs. D'abord, il a fait Mopra, qui était, mon Dieu, un film très classique, pour, je suppose, pour lancer sa compagnie, pour être sûr de lui. Après, il a fait un scénario de moi, ce qui n'est pas bon. Enfin, pas aussi mauvais que les deux premiers, mais enfin, pas très bon. 6,5-11, ou Kodak. Mais la première partie du film est très bonne. C'est la deuxième partie qui flanche un peu. Bon, mais enfin, ne parlons pas de ça, c'est un film mineur quand même. Et il a fait ses deux films majeurs au studio.
D'après La glace à trois faces.
La glace à trois faces. Et
La chute de la maison du cher.
D'Epstein au cours des années 20 est assez inégal parce qu'il n'a pas toujours pu trouver les conditions de production qui lui permettaient les films qu'il voulait, mais ce sont presque tous des films très originaux, au moins dans une ou deux séquences.
Quand on entend avant-garde aujourd'hui, on a l'impression d'un cinéma marginal, mais est-ce que c'était le cas à l'époque ou est-ce que c'était un cinéma qui était plus apprécié par les critiques et le public ?
Par le public, certainement pas. Tous ces cinéastes ont connu de très grosses difficultés, y compris Gans. Enfin, bien sûr, il a fait des super productions comme La Roue et Napoléon, qui sont vraiment des cas tout à fait exceptionnels. Mais Epstein a rencontré d'énormes problèmes de production, surtout à la fin des années 20. Puisque il a dû faire parallèlement des courts-métrages et puis des films de sujets plutôt documentaires. Et quand Cœur fidèle est sorti, il a provoqué des scandales. Le public populaire hurlait, comprenait rien au film, trouvait que c'était incohérent. Même réaction que, par exemple, Hiroshima ou l'année dernière Marianne Bad ont pu provoquer quand ils ont été distribués. Alors certes, les films coûtaient moins cher. Ça dépendait des types de production. Enfin, mais quand il y avait 5 ou 6 acteurs, pas tous professionnels, et qu'on tournait en décor naturel, comme dans La Belle Nivernaise, ça coûtait moins cher que les films de Gans, mais ou les films sonores par la suite. Donc les cinéastes avaient un peu plus de liberté. Et même Epstein a pu pendant 2 ou 3 ans, produire lui-même quelques films. Mais sur le plan commercial, ça a été un échec complet et il a dû accepter des travaux de commande aussitôt après.
Moi, une des choses qui m'a frappé en revoyant La glace à trois faces, par exemple, c'est la façon dont est organisé l'espace. On a du mal des fois à repérer les personnages d'un plan à un autre. C'est un autre système d'organisation. Et l'autre chose, c'est la différence de traitement entre les scènes. C'est-à-dire que quand une scène est un peu romantique, c'est un traitement très particulier de l'image, et quand c'est une scène un peu plus réaliste, c'est encore un autre traitement. Est-ce que bon, ça fonctionnait comme ça pour la plupart de ses films ?
Oui, enfin, il avait un sens de l'espace complètement original, très personnel, bon, lié aussi à une théorie, parce que Epstein, très vite et très jeune, a écrit sur le cinéma, a voulu fonder une philosophie du cinéma, la première philosophie du cinéma dès 1921, qu'il a appelée la lyrosophie. Mais La glace à trois faces est un de ses films les plus expérimentaux, avec La chute de la maison Usher, ou 6 et demi 11. Alors c'est un film qui est particulier. Il est fondé sur des retours en arrière, sur trois histoires qui sont arrivées au personnage. Enfin, c'est trois intrigues amoureuses. Alors ça commence par une séquence en voiture, qui est, je crois que c'est la mort du personnage au début, bon, qu'on retrouve à la fin. Et les trois fictions s'opposent, sont mises en parallèle et sont construites sur des univers, des espaces, des relations amoureuses très différentes les unes des autres. Alors c'est le principe du montage parallèle opposant des séries. Alors c'est évidemment, ce sont des recherches esthétiques et psychologiques, et les spectateurs n'étaient pas du tout habitués à ça. C'est pour ça qu'on a souvent comparé La glace à trois faces, dont le titre est très parlant, à Marianne Bad. Enfin, toute proportion, il y a quand même 40 ans d'écart entre les deux films.
Et si on posait la question comme ça, pourquoi ce cinéma-là n'a pas continué ? Pourquoi ça n'a pas marché ?
Parce que c'était un cinéma qui n'avait pas du tout d'avenir commercial. Enfin, il y avait quelques salles d'avant-garde à l'époque, comme le Studio 28, mais qui concernaient un petit milieu de l'intelligentsia parisienne. Mais tous ces mouvements, au moment du parlant, ont disparu pour des raisons d'évolution du public. Et ensuite, malgré un mécénat qui a duré 2-3 ans, avec le Vicomte de Noailles, les films de Cocteau et de Buñuel, en 1931, 1932, 1933, c'était plus possible. Il y a eu un phénomène de concentration industrielle, les films coûtaient plus cher, le public demandait autre chose. Et Epstein est allé tourner des films très personnels en Bretagne, en extérieur, comme Finistère ou Morvran ou L'Or des Mers. Ou bien il a accepté quelques commandes de films plus traditionnels comme Le Malispano, La Châtelaine du Liban. Mais c'était des films beaucoup moins ambitieux que ces films des années 20.
Sur le tournage de La chute de la maison
Usher.
Non,
c'était pas sur le tournage.
Parce qu'on raconte que Louise Buñuel a commencé à travailler.
Mais il le raconte dans ses souvenirs, d'ailleurs. Oui, ça s'est mal terminé aussi. Non, je vais vous dire, parce que mon frère était un ami de Gans et un admirateur inconditionnel de Gans. Il ne pouvait pas supporter qu'on critique Gans parce qu'il trouvait qu'il apportait tellement au cinéma, ce qui est vrai, il a apporté énormément au cinéma. Et mon Dieu, Buñuel est arrivé avec ses idées à lui, et Gans étant sur le plateau, je ne sais pas, Buñuel s'est permis des réflexions devant Gans, tout à fait désagréables pour Gans, alors mon frère n'a pas pu le supporter.
Et il l'a renvoyé, c'est ça?
Oui.
Tout à coup, les saccades des images débordèrent de l'écran pour se communiquer au mur et secouer le parquet. Ma chaise s'agita d'une brève trépidation qui suffit à donner une nausée. Il y eut des cris, un bruit de siège repoussé, de guéridon renversé, de verrerie brisée. La lampe de projection s'éteignit. Dans les ténèbres, la voix du gérant voulut dominer le brouhaha de la panique. Il ne s'agissait que d'une légère secousse, tout à fait inoffensive et banale, en cette saison et sur cette rive de l'Adriatique.
On n'a pas de film où on voit Jean Epstein. Il n'y a pas de souvenir visuel. On voit des photos. On voit un peu un artiste romantique avec une grande mèche sur le front.
Il avait des cheveux comme des flammes, comme ça, autour de la tête. Non, je n'ai pas de documents filmés sur lui.
Comment était-il sur un plateau, sur le tournage?
Ben, écoutez, il était possédé par ce qu'il faisait. Et surtout, c'était un auteur de film dans toute l'acception du terme. C'est-à-dire qu'il faisait tout. Il connaissait tout. Il mettait les décors en place, enfin, au moindre détail. Il faisait des découpages, parce que maintenant, beaucoup de jeunes vous diront que les découpages, ça ne se fait plus. Il faisait des découpages excessivement minutieux. Seulement très minutieux, mais il se donnait le droit de ne pas les suivre. C'est-à-dire qu'il laissait la place à l'improvisation. Il pouvait toujours improviser, être inspiré par un fait qui arrivait et qui survenait sur le moment. Mais il avait toujours un découpage technique très fouillé. Ensuite, la prise de vue, il la connaissait par cœur. Il pouvait dire à l'opérateur combien de tours il fallait pour faire une surimpression, quel objectif il fallait prendre, quel filtre il fallait mettre devant. Il connaissait tout de la prise de vue. Et enfin, le montage, eh bien, le montage, il le faisait lui-même. C'était vraiment ce qu'on appelait à ce moment-là un auteur de film, c'est-à-dire qu'il faisait tout. C'était beaucoup moins un travail avec beaucoup, beaucoup de personnes que souvent maintenant. C'était pas si fréquent à l'époque, non. On a dit qu'il était contre le cinéma parlant, non. Il était contre le cinéma parlant tel qu'il est apparu à ce moment-là, c'est-à-dire du théâtre filmé. Ça ne l'intéressait pas du tout. Et il reprochait enfin aux opérateurs de son de se soucier uniquement de l'exactitude d'une prononciation. Il fallait que le S se distingue du Z. C'était ça l'important, si vous voulez, les détails de la prononciation. Ce qui l'intéressait, le son, il trouvait que le son lui-même était un enrichissement énorme pour l'image, mais il aimait le son pris à même la vie, c'est-à-dire ce qui l'intéressait, le son d'un stade, le son d'une place de marché, ça pouvait enrichir beaucoup l'image. Le théâtre filmé, ça l'intéressait pas tellement, évidemment, même pas du tout, mais le son de la vie, ça l'intéressait beaucoup. Et puis, comme toujours, il voulait dépasser la réalité. C'est-à-dire que pour l'image, il demandait au cinéma de montrer ce que l'oreille ne pouvait pas voir, par exemple avec le ralenti, avec le gros plan excessivement rapproché. Et au son, il demandait également de faire entendre des sons que l'oreille ne pourrait pas entendre, de dépasser la réalité. C'est pour ça que vers la fin de sa vie, il est arrivé vers la fin, pas tout à fait vers la fin de sa vie, enfin après la guerre de 40, il a fait le Tempestaire, où il a inauguré le ralenti du son, où il a filmé les vagues et le vent au ralenti pour faire entendre des bruits irréels et pourtant existants. Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer. Il est parti en Bretagne comme ça pour se reposer. Et puis il a eu un choc, vraiment un choc là. Parce que il est parti, puis il est revenu là-bas avec un appareil de prise de vue. Et il n'a plus voulu réaliser, tourner des films que dans des sites réels, pas dans des décors, des histoires vécues et avec des gens du pays et pas des acteurs. C'est ce qu'il appelait sa période aux approches de la vérité. Et cette période, il y a été fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire que financièrement, il a été obligé de faire deux films commerciaux, L'homme à l'Hispano et La chute de la maison, La châtelaine du Liban, oui. Qui sont des films commerciaux. Ils ont des passages intéressants, mais enfin, c'est pas entièrement des films qu'on peut dire de Jean Epstein. Ils sont, surtout dans L'homme à l'Hispano, il y a quand même des passages très intéressants. Mais toutes les fois qu'il a pu, il s'est de nouveau rapproché de la mer, c'est-à-dire de la Bretagne, et il a filmé des histoires qui auraient pu se passer très simples par des gens, tournées par des gens du pays et dans les décors naturels. Il a été fidèle à cette période aux approches de la vérité jusqu'au Tempestaire, y compris.
Mais il n'était pas un peu déçu de son échec après la chute de la maison Huchère?
Écoutez, il a tellement été pris par sa nouvelle passion des approches de la vérité que sa déception, je ne m'en suis pas aperçue. Il était passionné par autre chose.
Si le vrai vin et il y a eu ce mauvais signe, de mon temps, on disait qu'il y avait des guérisseurs de vin, des tempestaires, des vieux qui savaient comment aider à la tempête et se faire obéir d'elle. Alors la mer se calmait. Mais ce sont d'anciennes histoires, il ne faut plus y croire, non.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche depuis une heure.
C'est le vent, la mer, j'avais peur.
Le vent est tombé. Regarde, la mer est belle, il n'y a pas pour avoir peur.
A été vraiment pour lui, il y avait une attirance pour lui extraordinaire.
Qu'est-ce qu'il en disait?
Je voudrais me... Il en disait peut-être pas grand-chose, mais il allait toutes les fois qu'il pouvait, même quand il était malade. Et nous, on avait encore une voiture à ce moment-là, mais il était malade et il disait, bon, ben, on va faire un petit tour. Alors on allait soi-disant à quelques kilomètres de Paris, puis quelques kilomètres tout de même, puis quelques... on s'arrêtait toujours au bord de la mer. Voilà, c'était une attirance.
Je crois que c'est la peur. La peur que j'ai eue toujours, et que j'ai encore de la mer. La peur, par un effet de ce qu'Edgar Poe appelle le démon de la perversité, et qui oblige justement à faire ce qu'on craint de faire.
J'entends au fond de la vallée les peupliers causer entre eux. La lune, un instant s'est voilée, tout redevient silencieux. Mais un murmure au loin s'élève, plus doux que le son du hautbois. C'est peut-être un oiseau qui la fraîcheur des bois. Le vent souffle dans l'air à lire, dans les genêts, dans les sentiers. Entendez
c'est dormir à mire. C'est la chanson des peupliers. C'est la chanson des peupliers.
Les chansons filmées, c'était... Les chansons filmées, c'était... Attendez, en quelle année c'était les chansons filmées? Oui, il a fait des chansons
32,
filmées.
32, 33, je crois, à peu près.
Non, oui, mais, oui, mais... Parce qu'il n'avait pas les moyens de faire mieux.
C'était dans quel cadre, ces chansons filmées? Je me suis toujours demandé.
Oh, bien, c'était des chansons populaires. C'était des chansons... Il y avait une berceuse bretonne. Il n'est rien resté de ces chansons. Je n'ai pas pu les retrouver.
Enfin, les films, en tout cas, sont
pardon
pas les films ont disparu.
Disparu,
mais...
oui. Mmh. Je n'ai plus.
Mais
il y avait la chanson des peupliers, où il y avait de magnifiques vues de peupliers, en effet. Pendant la guerre, alors que je travaillais au service de la Croix-Rouge à Vichy, Langlois est venu me voir comme ça un jour et il m'a dit « Soyez tranquille, les films de votre frère sont en sécurité ». Il les avait cachés, la chute de la Maison Richer, si elle existe encore, c'est évidemment grâce à Langlois qu'il avait caché parce que les Allemands l'auraient détruit.
Je crois que c'est un cinéaste qu'il affectionnait particulièrement. Henri Langlois a toujours,
oui, il a toujours
beaucoup
soutenu.
Aimé les films de Jean Epstein.
Oui, il a toujours soutenu beaucoup l'œuvre de mon frère. Toujours.
Et Jean Epstein, après la guerre, qu'est-ce qu'il est devenu?
On vivait toujours ensemble. Et après la guerre, il a retrouvé des amis qui lui ont fait faire le Tempestaire. C'était en 1947. Et mon Dieu, après, il n'a plus tourné. Il a énormément écrit. Beaucoup d'articles dans le Mercure, dans toutes ces grandes revues. Il écrivait beaucoup. Puis enfin, il a écrit tous les documents que j'ai reproduits dans Esprit de cinéma. Et ensuite, qui ont été reproduits totalement dans les écrits de Jean Epstein en deux volumes, publiés par Segers.
Où il développe la plupart de ses théories. Il a toujours travaillé dans le sens qui l'intéressait, dans le sens de sa recherche. Il parle très peu des films qu'il voit, du cinéma par ailleurs.
Oui, il en a très peu parlé. Pourtant, on allait au cinéma, on continuait à aller beaucoup au cinéma.
Et qu'est-ce qu'il en pensait de ce cinéma?
Eh bien, il y a des films qu'il aimait beaucoup, puis il y a des films qu'il n'aimait pas.
Mais est-ce qu'il pensait que son travail allait être reconnu et que le cinéma qu'il avait essayé de mettre en place dans les années 20 allait pouvoir...
Oh, vous savez, je crois qu'il avait beaucoup d'espoir. D'abord, il avait confiance, il disait qu'il fallait toujours qu'il y ait un cinéma, une avant-garde au cinéma, toujours une nouvelle avant-garde. Il disait qu'un art sans avant-garde, c'est un arbre sans sève. Il fallait toujours une nouvelle avant-garde qui remplaçait l'ancienne. Ça n'avait pas d'importance si on rejetait les anciennes techniques, mais il fallait toujours une nouvelle avant-garde. Il était toujours très soucieux des nouvelles tendances. Il était toujours pour une nouvelle avant-garde. D'ailleurs, peu de temps avant sa mort, il a encore écrit un article « Avant-garde pas morte ». Il était toujours à l'affût des nouvelles enrichissements du cinéma.
On lui a demandé d'enseigner le cinéma à l'IDEC.
Tout de suite après la guerre. Tout de suite après la guerre. C'était enfin vraiment les premiers mois. On lui a demandé de venir enseigner à l'IDEC. Mais ça n'a pas été un succès. Les élèves, je ne sais pas, son enseignement était peut-être trop philosophique. Toujours est-il que Il raconte d'ailleurs comme une anecdote, je ne sais pas si l'on a souffert ou pas, mais il raconte comme une anecdote, c'est que l'un de ses derniers cours, il y avait juste 3 élèves qui étaient venus et qui les a emmenés prendre le verre.
Malheureusement, ces films ne sont vus qu'à la Cinémathèque française. Ils doivent passer un à la télévision une fois tous les 15 ans. Il faudrait les diffuser, les faire connaître. Pour lui trouver une descendance, c'est assez facile, je crois. Enfin, on pourrait citer tous les cinéastes qui travaillent l'image de manière non réaliste, la subjectivité. En France, je penserais par exemple à Philippe Garrel. Hein. Enfin, bien sûr, c'est pas du tout le même univers mental, mais ou un cinéaste allemand comme Werner Schroeter, tous ces cinéastes qui essayent de raconter des fictions d'une manière personnelle, subjective, avec un travail très précis sur le décor, l'image et le montage.
C'est un cinéma qui est cantonné à être marginal.
Ça pourrait très bien concerner un public beaucoup plus large que celui du Palais de Chaillot ou du Centre Beaubourg. Hein. Mais c'est un problème de diffusion des classiques du cinéma en France, un problème d'existence de copies, par exemple. Même dans les fédérations de ciné-club, vous ne trouvez pas de films d'Epstein. Il y a eu, à une époque, son très très beau film « Le Tempestaire », diffusé par une fédération de ciné-club, mais il était dans un programme de documentaire avec d'autres films, et les autres sont totalement inaccessibles. Alors c'est un problème de choix, de distribution, la cinémathèque peut pas tout faire, mais ça serait formidable si on tirait 20 ou 30 copies de La Chute de la Maison Boucher ou de La Glace à trois faces, et qu'on la diffusait dans des endroits qui s'y prêtent.
Il pensait toujours réaliser une version shot sonore de La Chute de la Maison Usher. Il n'a pas pu réaliser.
Pourquoi il n'a pas pu réaliser?
Parce qu'il n'avait pas les moyens de son vivant. Et
il n'a jamais trouvé de producteur pour le monter, c'est ça?
Pour le réaliser, non.
Est-ce qu'il y avait d'autres projets comme ça qu'il aurait aimé terminer?
Oh, très probablement. Il a laissé des projets de scénario sur la mer, que j'ai toujours. Alors certainement, il aurait été heureux de les réaliser.
Mais comment était-il dans la dernière période de sa vie? Parce que quand même, c'était une période assez creuse au niveau professionnel. Il n'arrivait pas à tourner des films. Comment est-ce qu'il prenait ça?
Il écrivait beaucoup, alors ce n'était pas une période creuse pour lui. Il y avait une très belle citation de lui, d'un journaliste qui venait le voir au moment de... vers les dernières années de sa vie. Parce que je voudrais la retrouver, cette citation, mais oui. Il faudrait du temps pour savoir.
Oui, oui.
C'est au cours de ces dernières années qu'il a publié ses livres. Et puis sa vue fut menacée. Le mal qui devait l'emporter se manifesta d'abord dans ses yeux. C'est alors que la musique a pris plus d'importance et qu'il écoutait beaucoup, beaucoup la musique. À Roger Tousneau, l'un des derniers visiteurs qu'il reçut étant déjà malade, il a confié cette pensée. « L'homme ne me paraît vrai que s'il est attentif aux phénomènes qui l'étonnent et dont il exprime librement la nature, car l'homme qui n'est pas libre ne peut prétendre à aucune valeur d'existence. La liberté est l'idée motrice de l'intelligence. Il faut... » Et il a ajouté cet aveu qui semble déjà un testament spirituel. Il faut douter comme Descartes et trouver en soi la force de demeurer seul dans l'œuvre à laquelle on a consacré tout le travail de sa pensée et toute la patience d'une difficile fixité. Ce qui montre quand même l'effort qu'il a souvent fourni pour avoir le courage de rester seul dans son œuvre et de lutter contre toutes les difficultés qu'il rencontrait.
Mais ce qui me semble important, c'est que les films, on peut les voir encore maintenant et que vous avez fait vous-même un travail de restauration considérable, puisque vous avez commandez vous-même sur la chute de la maison Huchère une musique originale, et de la même manière sur la glace à trois faces.
Oui. Eh bien, parce que je voudrais que ce film que je trouve très important dans sa carrière et que j'aime beaucoup et que je crois qu'il rencontre encore l'intérêt de beaucoup de jeunes, j'ai voulu qu'il dure plus longtemps. Et vous savez, il faut bien le dire que le cinéma muet s'accompagnait toujours de musique, toujours. Et j'ai pensé que ces films, ils dureraient mieux et plus longtemps si on les accompagnait d'une musique. Et c'est très délicat, évidemment, de les accompagner d'une musique parce que la musique peut distraire l'attention et alors c'est catastrophique. Il fallait que la musique souligne l'image, amplifie sa portée, mais ne distrait jamais l'attention. Enfin, j'ai essayé de faire ça.
Mais sur la glace à trois faces, quel a été votre rôle par rapport à la musique? Vous avez commandé une musique
J'ai choisi la musique avec Roland de Candé, qui m'a aidé à choisir cette musique. Et je l'ai choisie autant que possible en respectant le goût de mon frère. Ainsi, j'ai pris du Jean Vienner. Je crois que mon frère, dans certains de ses films, a beaucoup employé la musique de Jean Vienner pour la musique, pour les scènes modernes. Et j'ai donc employé... j'ai fait de mon mieux pour essayer de respecter les idées de mon frère.
Longtemps, il fallut du courage à l'enfant que j'étais pour retourner voir, dans les antres étroits et obscurs, les images dont le tremblement risquait de s'insinuer dans les maçonneries, de désagréger les maisons, de détruire les villes. Elle vit rentrer la première dans ces dangers, au prix desquels on découvrait un monde de liberté magique, où des apparitions grotesques se pourchassaient, renversaient et cassaient tout, se jetaient à l'eau sans se noyer, tombaient des toits sans se blesser, accomplissaient l'impossible et le défendu.
Jean Epstein, portrait à trois faces. Document INA, extrait de la maternelle, le tempestaire, accompagnement musical de la glace à trois faces. Marc Duchesne, Philippe Bouillette, Michel Fleischmann, Jacques Kermabon.
C'était Les Nuits Magnétiques, première diffusion sur France Culture le 1er octobre 1986. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Le long du quai, les grands vaisseaux, que la houle incline en silence, ne prennent pas garde au berceau. Que les mains des femmes balancent. Mais viendra le jour des adieux, car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les horizons qui leur...